Eh bien, pour moi, c'est toujours une joie de partager la parole de Dieu avec des frères et sœurs, parce que je crois que c'est la parole qui enrichit nos vies. Non? Amen, hein? C'est vrai. Alors, je voudrais ce matin vous poser une question. Tu veux bien nous mettre la première diapo, s'il te plaît? Merci, voilà. Une vie bouleversée. Est-ce que nous sommes prêts à ce que le Seigneur bouleverse nos vies? Ah! Alors, rassurez-vous, quand on lit la Bible, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui ont eu leur vie complètement bouleversée. Hein? Là, j'ai mis quelques-uns, mais il y a Moïse. Pensez donc comment sa vie a été chamboulée. Hein? Lui qui pourtant est fils de Pharaon, enfin bref. Ou alors il y a David qui gardait ses moutons là-bas tranquillement, puis on vient le chercher, puis on consacre comme roi. Enfin, c'est extraordinaire. Ou alors j'ai mis Josué aussi. Il s'attendait pas à ce qu'il allait être celui qui allait marcher derrière Moïse pour la conquête du pays promis. Et puis il y a Joseph. Vous savez qu'il y a deux Joseph qui sont intéressants. Le premier Joseph, vous le connaissez certainement. Hein? C'est lui qui, grâce à lui, va permettre que le peuple ne meure pas de faim. Malgré que ses frères étaient jaloux du fait que son père semblait l'aimer mieux que lui, il va devenir, et lui aussi, sa vie bouleversée. Et puis, il y a le deuxième Joseph. Et c'est de ce deuxième Joseph que j'aimerais vous parler ce matin. En fait, ce Joseph, on parle peu de lui, tout compte fait. Pourtant, j'ai trouvé beaucoup de passages dans l'Évangile où on parle de ce Joseph. Ce Joseph probablement aspirait lui aussi à une vie bien tranquille. Tout avait bien commencé. Il avait un métier qui était à l'époque un métier où il y avait de l'avenir. Hein. Le bois, le travail du bois, c'était quelque chose d'important. Il s'était mis à aimer une jeune fille qui s'appelait Marie. Une gentille fille, courageuse. Et la famille avait accepté les fiançailles. Le destin semblait lui sourire. Et voilà que quelque chose s'est passé. Son univers a complètement basculé. Et depuis sa vie, vous allez voir, va continuellement être bouleversée, chamboulée, parce qu'il a voulu être obéissant à ce que Dieu lui demandait. J'aimerais avec vous lire ces premières paroles concernant dans Matthieu, chapitre 1er, versets 18 à 20. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien. Remarquez, je l'ai mis en rouge. Il est bien en rouge, hein? Un homme de bien. Qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » Je crois que Joseph avait essayé d'orienter sa vie selon les principes de l'ancienne alliance. Il attendait le mariage et puis voilà que tout d'un coup, voilà qu'est annoncée une grossesse. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais pour Joseph, c'était vraiment quelque chose qui a bouleversé sa vie parce que ça remettait beaucoup de choses en question tout d'un coup. Il pouvait supposer que Marie avait été infidèle. Après tout, on peut le dire. Lui savait bien qu'il n'avait pas couché avec elle, mais voilà qu'elle était enceinte. Et puis, bien qu'innocent, il savait aussi que lui-même serait condamné parce que la loi était stricte. Rien en dehors du mariage. Par rapport à aujourd'hui, hein, quelle distance, n'est-ce pas, hein? Oui. Et je crois que Joseph aimait tellement cette Marie, n'est-ce pas, qu'il pensait rompre secrètement comme ça, afin d'éviter la disgrâce publique. Et Joseph est certainement là en train de réfléchir. Et je pense que Joseph était aussi un homme de prière quand même. Il demande à Dieu, mais... Je pense que quand nous nous trouvons dans des situations si complexes du genre de celle-là, est-ce que c'est seulement notre intelligence qui peut nous aider ou est-ce que c'est le cri de notre cœur qui monte vers le Seigneur ? Seigneur, éclaire-moi. Seigneur, montre-moi la voie que je dois suivre. Je pense que Joseph ne s'est pas précipité à prendre une décision. Il a comme attendu qu'il ait une réponse. Et j'aimerais dire ce matin que si un danger guette nos vies, il faut savoir rester dans le calme et la confiance, comme dit la parole de Dieu, car c'est ça notre force, savoir attendre. Et le Seigneur, oui, encore une fois, les grands personnages de la Bible n'ont pas toujours su attendre, tout compte fait. Vous savez qu'Abraham, n'est-ce pas, il n'a pas su attendre que Sarah ait vraiment conçu. Il va faire dévier le plan de Dieu parce qu'il n'a pas su attendre. Ou Saul, le roi, qui est allé voir celle qui pouvait lui prédire l'avenir. Ou alors même l'apôtre Paul a failli parce qu'il voulait partir en Europe alors qu'il n'avait pas eu le feu vert de Dieu. Alors, nous aussi, nous devons faire attention à ne pas être des gens qui prennent trop vite les décisions avant d'attendre le signal de Dieu dans nos vies. Et là, nous voyons que Joseph sait attendre. Et dans cette attente, l'ange du Seigneur vient lui parler. Alors, quand l'ange vient lui parler, il va mettre un terme à sa douloureuse méditation. Et Joseph croit ce que lui dit l'ange dans son songe, dans son rêve. Ça ne veut pas dire que nous devons croire tous les rêves, mais là, c'est quand même un rêve très particulier. Joseph sait que c'est un ange de l'Éternel qui est en train de lui parler. Et quand Dieu nous parle dans un rêve, nous le savons. Alors, il va prendre sous sa protection Marie, celle qui est désormais sa femme. Mais il nous a dit que quand même, il va attendre qu'il y ait eu la naissance de Jésus, tout ça, pour que la parole de Dieu puisse continuer à s'accomplir, puisqu'il nous a dit que la Vierge enfantera. Alors, si nous voulons vraiment suivre les instructions dans la parole, nous devons chaque étape de notre vie, et particulièrement lorsque des grandes décisions, laisser au Saint-Esprit nous guider, frères et sœurs. Alors nous sommes un peu dans la période où peut-être vous avez des décisions à prendre sur le plan professionnel ou ceux qui sont encore en études. Laissez le Saint-Esprit vous parler. Laissez le Saint-Esprit vous réconforter dans les choix qu'il ira à faire, que ce soit un choix pour un bien-aimé ou une bien-aimée, que ce soit pour le travail, pour l'étude, ou peut-être s'investir dans un achat immobilier. Moi, je vous parle dans la liberté ce matin. Je ne vous connais pas, hein, mais peut-être quelques-uns parmi nous ont des choix à faire. Ne vous précipitez pas. Attendez le feu vert de Dieu. Il vous le donnera. Si vous aimez le Seigneur, il ne vous laissera pas sans vous mettre dans le cœur ou sur votre chemin une indication claire de ce qui doit se passer. Et vous voyez que Joseph, on a entendu tout à l'heure, c'est un homme de bien, il ne s'est pas précipité, il a attendu que Dieu lui parle. Et là, maintenant, on va le voir dans une autre situation. Vous allez voir, comme ça, différents portraits que je vais essayer de développer avec vous. Et on le trouve dans Luc au chapitre 2, versets 1 et 4. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David. Et il y alla afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Voyez-vous, Joseph va vivre un moment assez particulier quand même. Là, il n'y a pas d'ange, mais le simple bon sens. Se conformer tout compte fait à la loi, dans un sens. Alors, est-ce que Joseph était conscient que le simple bon sens qui était d'aller se faire inscrire allait être un moyen pour que la parole de Dieu s'accomplisse? C'est extraordinaire, non? Vous voyez pas? Est-il conscient que l'événement qui est voulu par un despote le conduit à s'inscrire dans la lignée de David? Je crois que parfois des événements de la vie nous poussent dans des directions auxquelles nous ne nous attendons pas. Nous n'avions même pas pensé. Mais si nous aimons le Seigneur, nous savons qu'il ne nous laisse pas aller dans n'importe quelle direction. Là, Joseph n'a reçu aucune instruction particulière. Il aurait pu prétexter, monsieur, ce qui nous est demandé d'aller nous inscrire ce recensement. Je ne peux pas y aller, Marie est enceinte, elle va se fatiguer, le chemin est long. Joseph est muet là-dessus. Il va, comme on le demande, aller s'inscrire. Et il prend charge de sa bien-aimée pour l'emmener avec lui afin de régulariser leur situation. Sans entrer dans le détail, je vois que la démarche de Joseph est une magnifique image de ce couple qui entre sans le savoir dans la volonté de Dieu. Il obéit à la loi du dictateur en place, mais en même temps, il va remplir sa fonction de père, de mari et de père. Il y a d'autres situations où on retrouve maintenant notre Joseph. Dans Luc, au chapitre 2, jusqu'au verset 24 et un peu plus loin dans le chapitre. Le huitième jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, comme cela avait été demandé, hein, à l'obéissance. Hein. On en a parlé un peu tout à l'heure. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, en suivant qu'il est écrit dans la loi, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Et aussi pour offrir un sacrifice, en sacrifice de tourterelles ou de jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi de Moïse. Vous voyez comment Joseph est là, présent, pour que la parole de Dieu puisse vraiment s'accomplir. C'était la circoncision, c'était vraiment un aspect important dans ce que Dieu avait demandé. Et comme l'ange l'avait dit à Marie et à Joseph, on l'appellera Jésus. Et même quand il signifie de la fameuse cérémonie des 40 jours après la naissance, eh bien, Joseph est là et ils vont offrir un sacrifice qui est en fonction de ce qu'ils sont. Un couple pauvre. En effet, ceux qui sont riches, ils offriraient un agneau. Eux, ils vont offrir deux pigeons, parce que c'est tout ce qu'ils ont à offrir. Mais Dieu ne nous demande pas d'offrir des centaines et des milliers, il demande une toute petite chose, nos vies. Nos vies. C'est ça qui est le plus précieux, qu'on soit pauvre ou riche, qu'on soit sage ou ou ignorant, pas de problème. Je crois que là aussi, et puis autre chose qui me vient à l'esprit, c'est que Joseph et Marie ont consacré leur don précieux, ce Jésus. Je voudrais m'adresser aux parents, si vous avez des enfants, consacrez-les au Seigneur. Priez pour eux. Priez en Église pour nos enfants, parce que ils ont besoin d'être entourés de la grâce de Dieu afin qu'ils puissent vraiment vivre pleinement. Et regardez un peu plus loin, un dernier événement dans la série que je relevais quand Jésus a 12 ans, pour vous montrer comment Joseph est conscient de ses responsabilités. Jésus est resté en arrière et il nous a dit que Marie et Joseph sont revenus pour chercher la responsabilité que les parents ont vis-à-vis de leurs enfants. Pas seulement la mère, pas seulement le père, le couple. Hein? Amen. Le couple. Et la parole de Dieu parle du couple, un homme et une femme. Pardon. Alors, ce que je continue à voir aussi avec vous, avec Joseph, qui m'a fait beaucoup de bien, c'est que c'est un homme sensible aussi, très sensible à la voix de Dieu. Dans ses décisions importantes, nous l'avons vu, Joseph doit prendre le Seigneur, s'adresser au Seigneur pour lui indiquer la marche à suivre au travers de différents songes. En effet, vous savez comme moi que Joseph va maintenant connaître, après la naissance de Jésus, beaucoup de bouleversements. Si j'ai bien calculé, je crois qu'il y a environ 4 moments où, de nouveau, la vie de Joseph est bouleversée. Et à chaque fois, Dieu parle à Joseph parce que Joseph a un cœur pur. Regardez à l'annonce de la visite des mages. Dans Matthieu 2, au verset 13, là, Joseph et Marie ont dû être étonnés de voir des sages venir d'ailleurs avec toute leur suite et offrir des cadeaux, de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Et c'était certainement un moment très, très joyeux parce qu'ils ne s'attendaient pas, eux, les pauvres qu'ils étaient, de voir des cadeaux tels que ceux-là. Mais il est un ennemi qui n'aime pas nous voir dans la joie. Et regardez ce qui se passe pour Joseph. En parlant des mages, lorsqu'ils furent partis, voici un ange de l'Éternel apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends ton petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. J'imagine l'étonnement de Joseph quand il a vu arriver ces étrangers. La joie était de courte durée, comme je disais. Et nous voyons au verset 25, Joseph se leva. Pas de discussion. Dieu parle, je fais. Pour faire ce que Dieu lui a commandé. Et pour qu'ainsi l'enfant soit protégé, comme par un miracle. L'ennemi qui cherche à détruire ce que Dieu veut construire. Et Joseph est averti de ce danger-là. Et il va se lever et il va partir en Égypte comme Dieu le veut. Pour revenir aux enfants, j'aimerais dire, eh bien, il ne suffit pas de remettre nos enfants au Seigneur, il nous faut parfois, d'une façon volontaire, les éloigner de ce qui pourrait être pour eux une occasion de chute. L'ennemi n'est pas éliminé, frères et sœurs. Et le danger subsiste. Mais Joseph, le chef de famille, qui a été averti par l'ange, s'enfuit. Il ne veut pas qu'on touche à cet enfant nouveau-né. Et sa fuite, pour moi, ça nous explique que nous devons veiller à ce que vivent nos enfants, aux tentations qui sont les leurs, parce que l'ennemi rôde. Et puis quand même, remarquez que quand Joseph s'enfuit de nouveau, il entre pleinement dans le plan de Dieu, puisque le prophète Osée disait « J'ai appelé mon fils en Égypte. » Pardon. Il est allé en Égypte parce que, Dieu va souhaiter plus tard que d'Égypte, l'enfant revienne vers le pays, après la mort d'Hérode. Mais tout le plan de Dieu s'accomplit. C'est extraordinaire. Et avec la mort d'Hérode, eh bien, il y a de nouveau un changement. On est allé en Égypte pour le protéger, et maintenant on revient au pays parce que le Seigneur le demande. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph. Il lui dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, et va dans le pays d'Israël, car ceux qui ont voulu à la vie du petit enfant sont morts. Joseph se leva. Et la spontanéité, hein. Joseph se leva, prit le petit enfant avec sa mère et alla dans le pays d'Israël. Mais, ayant appris qu'Archélaus régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, il craignait de s'y rendre. Vividement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé. Dieu avertit Joseph de la mort d'Hérode et de ceux qui cherchent à la vie, et au moment venu, donc, il appelait son fils à sortir d'Égypte. Il ramène sur la terre promise, le lieu d'héritage du peuple élu, tout. Je pensais que le retour au pays, c'est un petit peu la contestation de notre héritage chrétien. En Jésus-Christ, nous avons reçu un plein pardon. En Jésus-Christ, nous avons reçu la certitude qu'un jour nous serons avec lui. Et cet héritage aujourd'hui est fortement contesté. Pourquoi croire aujourd'hui en un Dieu qui sauve, en un Dieu qui transforme, n'est-ce pas ? Conteste encore de nouveau. Les rois étrangers peuvent régner les uns après les autres, les théories les plus folles, la philosophie les plus folles, la théologie la plus folle. J'ai toujours été, dans ma jeunesse, impressionné par cette théologie où j'entendais « Dieu est mort ». C'est fini tout ça. Mais c'est pas vrai. Jésus est toujours vivant. Alléluia. Alors, Joseph revient en Égypte avec le petit enfant, et cependant, il a peur d'Archélaus, et Dieu va comprendre cette peur. Et Dieu va l'annoncer, lui dire où il doit aller. Et donc, il va pas retourner en Judée, et il doit aller à Nazareth. Et pourquoi Nazareth? Parce que Jésus s'est rappelé le Nazaréen. Comment le plan de Dieu, c'était, je sais pas si vous êtes enrichi ce matin, mais pour moi, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Alors, j'essaie avec vous de faire ces quelques photos, ces quelques tableaux, comme dans un musée, vous savez, une galerie, il y a des tableaux avec les différentes étapes. Alors, ce matin, vous pouvez vous lever et dire, mais c'était bien, ça m'a fait du bien, j'ai jamais pensé que Joseph était aussi important, lui aussi, qu'il avait accepté que sa vie soit autant bouleversée. Mais avec vous, je crois que, pour moi, ce qui me revient plus à l'esprit, c'est Joseph, il est de ceux qui font partie de ceux qu'on n'entend pas s'exprimer, les silencieux, mais dont l'obéissance et la dépendance sont précieuses aux yeux de Dieu. Frères et sœurs, c'est extraordinaire. Vous avez vu, jamais Joseph ne réagit aux ordres qu'il reçoit. Il les exécute. Et nous, parfois, nous avons tendance à trouver des excuses, à exprimer nos sentiments, qui ne sont pas nécessairement les sentiments de Dieu. Hein. Et je crois que en Joseph, nous voyons un homme que Dieu peut utiliser et bénir. Un homme de bien, comme on le disait tout à l'heure. Il oriente sa vie selon les principes de la parole de Dieu. Aujourd'hui, il y a plein de principes qui nous entourent et qui ne sont pas issus de la parole de Dieu. Est-ce que nos vies sont complètement orientées? Est-ce que ta vie est complètement orientée selon les principes de la parole de Dieu? Ne cherchez pas des excuses, frères et sœurs. Quand Dieu parle, que ce soit par un songe, par une prédication, par un cantique, que sais-je, moi, Dieu parle. Dieu parle tantôt d'une façon, d'une autre, dit le prophète, et l'on n'y prend point garde. Dieu parle. C'est un homme de bien qui oriente sa vie selon les principes de Dieu. C'est un homme sensé. Et il n'a pas toujours besoin de révélation pour savoir qu'il a pris le bon chemin. Joseph est allé au recensement. Ça semblait un ordre qui n'était pas un ordre de Dieu, c'était simplement un ordre d'un dictateur. Et il me semble que Paul a dit quelque chose, soyez soumis aux autorités. Autant que ces autorités ne demandent pas d'aller en dehors de la parole de Dieu, c'est bien entendu. Mais aller au recensement pour Joseph, c'était entrer pleinement dans le plan de Dieu. Alors, je crois qu'il nous faut apprendre à être des hommes et des femmes sensés, qui font attention à la précipitation des décisions que nous pourrions prendre. C'est un homme qui est sensible à la voix de Dieu, qui sait faire taire toutes les voix du monde, qui essaie de boucher nos oreilles pour que nous n'entendions plus ce que Dieu veut nous dire, qui essaie de nous réconforter en disant « Mais non, c'était pour hier, c'est pas pour nous aujourd'hui. » Un homme sensible à la voix de Dieu. Et quand on est sensible à la voix de Dieu, qu'est-ce qui se passe? On devient obéissant. Et Joseph est un homme obéissant. À plusieurs reprises, nous avons pu entendre « Lève-toi » et il nous a dit « Et Joseph se leva ». Et même, si j'ai bien entendu, il a été capable de se lever pendant la nuit. Il a réveillé sa famille parce qu'il voulait tellement accomplir ce que Dieu lui avait montré que plus rien d'autre ne comptait. Et pourtant, il fallait quitter le pays. C'était quand même un sacrifice quand on doit quitter son pays natal. Eh bien, il le fait parce que Dieu lui a parlé. Je crois que l'histoire de Joseph, c'est vraiment l'histoire de l'homme qui accomplit pleinement les Écritures, que ce soit dans des révélations, que ce soit dans une vie qui est conforme à ce que Dieu veut. Et je crois qu'il est encourageant ce matin pour nous chrétiens de savoir que tout est dans la main de Dieu. Tout. Est-ce que c'est ça que vous croyez ce matin? Tout est dans la main de Dieu. Je veux être disponible comme Joseph, même si je me trouve dans une situation ambiguë qui semble... Sans réponse, le Seigneur te dit « Attends, je te donnerai la réponse. » Tout à l'heure, on parlait des locaux. Et je disais, vous êtes en recherche de locaux. L'église de Compiègne est aussi en recherche de locaux. Nous n'avons plus de locaux à nous pour le moment et nous attendons que le Seigneur nous donne. Alors, soyez pas, laissez le Seigneur agir. Et il agit. Dans la parole de Dieu, nous voyons que seule sa volonté s'accomplit. Il dirige les détails des circonstances qui sont, comme nous l'avons vu, vraiment en harmonie avec l'obéissance et la soumission de Joseph et de Marie. Dieu parle, Joseph obéit, et les voies de Dieu s'accomplissent. Alléluia. Dieu parle. Joseph répond, et ça s'accomplit. C'est notre vie. Dieu te parle. Est-ce que tu réponds pour que sa volonté s'accomplisse? Qu'il en soit de même pour nous ce matin, frères et sœurs. Faisons-lui confiance dans nos circonstances, dans nos difficultés de vie, et la bénédiction de Dieu reposera toujours sur nos vies. C'est le prophète Ésaïe qui nous lance ce défi. J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » C'est Dieu qui nous lance le défi, ce n'est pas nous qui lançons le défi. C'est Dieu qui nous dit, « Qui enverrai-je » Le Dieu Tout-Puissant, celui qui a tout pouvoir, c'est lui qui nous pose la question, « Seras-tu un Joseph jusqu'au bout ? Seras-tu un Joseph et Marie jusqu'au bout ?» Eh bien, puisses-tu dire ce matin, « Me voici, envoie-moi. » Amen. Je vous invite à prier ensemble, Seigneur. Merci, Seigneur, pour l'exemple de cet homme qui, parfois, n'a pas été mis en valeur, et pourtant, ce Joseph est tellement fidèle, est tellement obéissant. Il est pour nous l'image d'une consécration qui est vraie et authentique. C'est pourquoi nous voulons répondre à ton appel. Qui enverrai-je ? Qui marchera pour moi ? Nous voulons te dire, Seigneur, me voici, envoie-moi. Amen.